Alors voilà, on va recommencer la journée, l'après-midi. Donc, on va avoir des témoignages cet après-midi, des témoignages de deux collectivités. Donc, on va avoir la ville de Vitré tout d'abord, le conseil départemental du Maine-et-Loire, et puis d'une entreprise, l'entreprise ArcelorMittal, située près de Nantes. Alors effectivement, l'idée, c'est de voir un petit peu quels espaces on peut entretenir donc avec de l'éco-pâturage. On va commencer par donc Philippe Lécuyer. Je vous invite à venir, qui est le directeur des espaces verts de la ville de Vitré, en Ille-et-Vilaine. On aurait pu commencer aussi par le Maine-et-Loire, parce que je crois que vous avez commencé en même temps. C'est vous qui étiez un peu les pionniers. Donc il y a une dizaine d'années déjà que vous êtes lancé donc dans l'éco-pâturage, dans un espace superbe. Je crois que c'est ce qu'on voit d'ailleurs en photo, le château de Vitré. Et puis vous allez nous expliquer comment vous avez démarré dans cette démarche et pourquoi vous l'aviez lancée à l'époque, et puis peut-être comment ça a évolué depuis 10 ans. C'est ça qui est intéressant, c'est que voilà, nous sommes sur des expériences où on a du recul. Vous avez du retour, des retours. Donc voilà, merci.
Merci. Bonjour à tous. Donc, Philippe Lécuyer, je suis responsable du service espaces verts de Vitré. Je ne doute pas que vous sachiez tous où se trouve Vitré, mais je vais quand même le préciser. Donc, en Ille-et-Vilaine, donc en Bretagne, à peu près égale distance entre Rennes et Laval. Vitré est une ville de 18 000 habitants qui couvre sur un territoire de 3 700 hectares. Donc, on a une partie urbaine et puis une partie rurale non négligeable. Vitré est une ville, vous le voyez déjà sur la première diapositive, mais sur la suivante, on va voir aussi, au patrimoine architectural riche et important. Donc ça, c'est pour vous donner envie de venir passer vos vacances à Vitré. Donc avec un château médiéval dont les premiers éléments datent du XIe siècle. À droite, vous avez la gare, elle, typique du XIXe. L'église Notre-Dame, premiers éléments du XIIe siècle. Le château des Rochers, en bas à droite, qui a été la demeure de Madame de Sévigné, qui de temps en temps passait en Bretagne. Elle logeait là et elle a écrit quelques lettres à partir d'ici. Tout ça, bien évidemment, sont des bâtiments qui sont classés ou inscrits, qui ne sont pas non plus sans poser de problème quand on veut bricoler autour. Si le patrimoine architectural est riche, le patrimoine espace vert, espace naturel est important aussi. Le premier jardin, on l'a là sur le château des Rochers, on est sur un jardin du 17e, donc jardin à la française, géré par le service espace vert. Mais d'autres jardins, sur la suivante, deux diapositives, deux photos du haut, le jardin du parc, qui lui est un jardin du 19e sur presque 7 hectares, qui est un jardin labellisé éco-jardin. Alors, je ne sais pas si tout le monde connaît le label éco-jardin, mais à l'occasion, on pourra en toucher deux mots si vous souhaitez. Qui se situe aujourd'hui quasiment en centre-ville, puisque la ville s'est développée plutôt vers le sud, et ce qui fait que géographiquement, il est vraiment très très bien positionné, fortement fréquenté. Je cite le label Écojardin parce que, et on y reviendra tout à l'heure, c'est un site où donc on est sur une gestion écologique des espaces verts, et ben, il y a un lien direct, bien évidemment, avec la question de l'éco-pâturage. Et puis en bas, deux photos d'un espace plus contemporain, puisqu'il s'agit d'un espace qu'on appelle le Pré des Lavandières, qui se situe en bordure de Vilaine. Donc la Vilaine traverse Vitré et coupe Vitré en deux, puisque on a un coteau nord et puis un coteau sud de part et d'autre de chaque rive. Et c'est l'élément, c'est peut-être le point de départ de l'éco-pâturage à Vitré. Vous apercevez sur la diapositive de droite une passerelle. C'est cet élément-là qui a été le facteur un petit peu déclenchant de notre action d'éco-pâturage. Sur la diapositive suivante, on va avoir une petite idée donc, de la topographie Vitré. La photo est prise là, plutôt sur la rive sud de la Vilaine. On aperçoit la Vilaine en bas, mais pas très très bien. Et puis de l'autre côté, côté nord, la ville a continué de se développer. Ce qui fait qu'on se retrouve avec une vallée encaissée quasiment en centre-ville, puisque là, en 3 minutes à pied, on est en cœur de vallée, qui bien évidemment est protégée au PLU, donc il n'y aura pas de développement urbain sur cet espace-là. On est sur des milieux humides, sur zones inondables. Donc on sait que c'est un secteur qui, en termes d'aménagement, sera préservé. Comme souvent, les propriétés foncières, les entités foncières vont jusqu'à la rivière, ce qui fait que cette rivière-là n'était pas accessible au public. Et la volonté de la municipalité était de la rendre accessible le plus possible au public. On a donc engagé, à partir du Pré des Lavandières, photo suivante s'il vous plaît, Voilà, donc là, on se trouve dans le pré d'Avandières. Vous avez percevé le château qui domine Vitré, donc on voit qu'on voit assez facilement. À partir de cet espace-là encaissé, la collectivité a souhaité ouvrir des liaisons piétonnes le long des berges de la Vilaine. L'idée, c'était de pouvoir accéder sur un espace de 5 à 7 mètres de large le long du cours d'eau et ouvrir à la promenade, puisqu'encore une fois, on est vraiment très proche du centre-ville. Les négociations foncières sont toujours des choses très très longues, engagées. L'objectif là, c'était d'accéder au terrain, soit sous forme de location, soit sous forme de vente, soit sous forme de convention, de droit de passage. Enfin, il y avait différents schémas. En 2000, on a pu ouvrir une première section sur le tracé imaginé. Les négociations foncières se sont poursuivies pour ouvrir une deuxième partie en 2004. C'est là où on se trouve. Et au cours des négociations foncières, la parcelle que l'on a à droite après la clôture, là, les propriétaires étaient d'accord pour vendre, mais l'intégralité de la parcelle. Alors nous, on ne cherchait pas à faire du foncier à tout prix. Ce qui nous intéressait, c'était de rendre la bande accessible. Pour autant, c'était la seule condition pour pouvoir accéder. Donc la ville s'est rendue propriétaire des 4 hectares de terrain en zone humide. À l'époque, l'ancien propriétaire avait un locataire qui avait quelques moutons qui pâturaient là. Donc on a conservé le locataire et puis les choses se sont poursuivies comme ça. Si ce n'est que 2 ans après notre acquisition, le locataire a dit « ben moi j'arrête ». Et donc on avait là 4 hectares et on a commencé à se poser des questions sur ben, qu'est-ce qu'on fait, comment on fait. Est-ce qu'on passe sur un entretien mécanique? Est-ce qu'on trouve un nouveau locataire? Pas facile parce que mine de rien on est quand même en centre-ville, même si ça ne ressemble pas, mais on est en centre-ville, donc pas facile d'accès. Ou est-ce qu'on se lance et on gère l'espace nous-mêmes? On s'est rapproché à l'époque du CRAPAL, j'ai aperçu Régis Fresneau tout à l'heure, donc on a été accompagné par le CRAPAL, donc le Conservatoire des races animales en Pays de Loire, merci Régis, pour nous aider, et le CRAPAL nous a accompagnés sur toute notre démarche. Donc après une première visite de terrain, ben voilà, nous on a un espace là, on souhaite pourquoi pas pouvoir l'entretenir en éco-pâturage, on souhaite des animaux rustiques, quel type d'animaux on ne savait pas trop. Plein air intégral, pas question pour nous de les rentrer en bergerie ou en étable l'hiver et de gérer ça. Et puis à l'occasion, si ça peut participer à la conservation des races à faible effectif, pourquoi pas. Mais on n'était vraiment pas du tout fixé. Après analyse de tous ces critères, le CRAPAL Régis Fresneau nous a proposé de partir sur du land de Bretagne. Et donc en 2007, le troupeau land de Bretagne est arrivé sur le terrain. Troupeau composé donc de 15 brebis, un bélier. Là aussi, le CRAPAL nous a accompagnés pour trouver les animaux et démarrer. Et depuis, le troupeau fonctionne sur cet espace-là de manière satisfaisante. Là, vous avez une photo avec les agneaux de l'année, donc quelques agneaux de l'année, là. Pour l'heure, sur les 16 brebis, donc aujourd'hui 16 brebis, un bélier, sur les 16 brebis, 13, fin de semaine dernière, avaient agnelé et 26 agneaux, donc... A priori, ça va, se place pas trop mal sur l'espace. Et on gère comme ça cet espace-là. L'éco-pâturage, on y est venu. Pour autant, c'est la suite logique. Tout à l'heure, je vous ai parlé de gestion écologique des espaces verts. Comme beaucoup de villes, nous nous sommes lancés et avons fait évoluer nos pratiques de gestion d'espaces verts sur la gestion différenciée. À classer nos espaces, à reprendre nos cahiers des charges et à adapter le niveau d'entretien à chaque nature d'espace. Je pense que si on n'avait pas fait ce travail-là dans les années précédentes, on ne serait probablement pas arrivé sur l'éco-pâturage parce que c'était une marge de plus vers la gestion plus écologique des espaces. On peut passer à la photo suivante. Donc vous voyez, on voit le milieu, donc on est quand même sur un milieu humide. Les animaux restent sur le site toute l'année, donc en plein air intégral, à l'herbe quasiment exclusivement, du foin à volonté et à discrétion, donc les animaux se servent comme ils veulent. Et puis on a un petit complément en granulé au moment de fin de gestation et début de lactation, de manière à ce que les animaux démarrent bien, et puis après on gère les animaux uniquement à l'herbe. Donc ça nous amène à faire un peu de foin, mais on en faisait déjà un petit peu avant, dans toujours le cadre de la gestion différenciée où on avait fait évoluer nos modes de gestion des espaces enherbés entre la tonte, du fauchage tardif, de la fenaison. Alors la photo est trompeuse, hein, on a l'impression que les terrains de rugby sont fauchés. Non, non, hein. Non, non, je vous rassure, on n'en est pas arrivé là quand même. Ça s'arrête juste au niveau des poteaux d'éclairage. Hein. Les terrains de rugby sont tendus. Et puis, on en a parlé un petit peu ce matin aussi, bien évidemment, une partie communication en direction du public, de manière à expliquer ce qu'on fait, comment on le fait, pourquoi on le fait. Deuxième site, en éco-pâturage, vous allez me dire, il n'y a pas d'herbe. Non, effectivement, le château, si on pousse la diapositive suivante, devant le château, nous avons des fossés secs. Alors, on les appelle les douves, mais ce sont des fossés secs, il n'y a jamais eu d'eau dedans, parce qu'on est vraiment sur le promontoire, donc il n'y a pas d'eau. Les pentes sont marquées, comme vous pouvez le constater, jusque 2012. Ce sont les jardiniers qui scoltinaient la fauche des talus et c'était compliqué, c'était surtout dangereux. Alors on n'a jamais eu d'accident, mais on a dit qu'il faut qu'on trouve une autre solution. Et le fait d'être passé par l'éco-pâturage avec les moutons nous a ouvert un peu, peut-être plus l'esprit en disant qu'il faut peut-être trouver une solution en matière d'éco-pâturage là aussi. Et là, nous sommes passés sur de la chèvre des fossés. Donc on a deux jeunes boucs, donc ils étaient jeunes, ils venaient d'arriver, qui se chargent de l'entretien de ces fossés. Pas seulement, puisque ce n'est pas très très grand, donc quand ils ont fini leur travail là, ils rebasculent sur un espace plutôt prairie. Et puis troisième site d'éco-pâturage, qui est plus récent, lui, qui a maintenant un an et demi. On se retrouve là sur un coteau qui descend vers la vallée de la Vilaine avec ce qu'on appelle, nous, le talus du Val, une surface de 8000 m² en talus, là aussi, où là, on a fait l'acquisition de deux nouvelles chèvres de fossés, alors deux boucs toujours, donc mal castrées, pour entretenir cet espace-là. Et puis, les choses se déroulent pas trop mal. Pour l'instant, ils n'ont pas encore réussi à gérer la totalité de la surface parce que le milieu était quand même un peu fermé, mais... Ils travaillent bien, ils y arrivent. Dans le mode de gestion, l'ensemble de nos animaux aujourd'hui, donc les 16 moutons, les 4 chefs des fossés, sont gérés en régie municipale directe. Il y a 10 ans, assez peu de prestataires étaient en capacité de nous proposer une prestation d'éco-pâturage. Donc cette solution-là d'un prestataire a rapidement été éliminée. Et puis, Vitré est quand même une zone plutôt rurale. Donc, bon nombre d'agents du service espace vert sont d'origine rurale ou proches du monde rural, ce qui fait que le contact avec les animaux est peut-être quelque chose qui, chez nous, passe encore assez facilement et ça ne fait pas trop peur, on va dire. C'est une équipe de secteur qui s'occupe des animaux, puisque l'espace est sur leur secteur géographique. Ils ont bénéficié d'une formation... Et c'était à cette époque-là, on s'était rapproché de NT pour nous monter une formation spécifique sur site avec une partie théorique, une partie manipulation des animaux, de manière à faire en sorte qu'on puisse manipuler les animaux dans de bonnes conditions, sans leur faire mal et sans nous faire mal non plus. Aujourd'hui, si on doit faire un petit bilan, on ne rencontre pas de difficultés particulières dans la gestion de nos troupeaux. On a parlé un petit peu ce matin d'incivilité. On n'a pas d'incivilité identifiée, pas de dégradation de clôture. On a eu une fois, 2 ans après le démarrage, un animal qui a été a priori tué par un chien en divagation. Ça ne s'est pas reproduit, donc aujourd'hui on a quelque chose qui est relativement stable dans le développement. Et voilà, si vous avez besoin, mes coordonnées mail... pour pouvoir me contacter si nécessaire. Je vous remercie.
Une question. Bravo, c'est... Est-ce que ça a marché ?
Eh oui. Ça marche. Faut pas perdre espoir. Donc, bravo donc, pour cette présentation. C'était très complet. Peut-être 3 projets, là, déjà, 3 réalisations d'éco-pâturage. Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous avez... envie de faire, donc sur Vitré pour l'instant ?
Pour l'instant, en éco-pâturage, non. Dans les animaux, on a, je ne l'ai pas dit, mais on n'est pas en éco-pâturage. En 2009, on a mis en place un rucher municipal. Toujours en régie directe, on le gère nous-mêmes. Après, en matière d'éco-pâturage, j'ai tendance à dire, c'est l'occasion qui fait le larron. Donc, si on a une problématique, on sait qu'il y a une hypothèse par là. L'objectif pour nous, c'est de trouver la solution la mieux adaptée à la problématique qui se pose. Donc, ça peut être du mécanique, mais ça peut être des animaux.
Et vous avez parlé donc des employés, vos collègues qui n'ont pas de réticence, ils viennent du monde rural. Les élus, eux, comment réagissent-ils à cette démarche ?
On peut poser la question à M. Lebris, adjoint, qui va vous répondre.
Si déjà il vient, c'est que sans doute, voilà, il est hostile.
Je précise que M. Lebris est un ancien agriculteur, donc il y a une fibre peut-être un petit peu sensible.
Oui, je crois qu'effectivement, ça a facilité les choses pour ce projet. Personnellement, moi, j'y étais très attaché et je me suis impliqué aux côtés de Philippe Lécuyer dans cette démarche. On évoquait tout à l'heure à table avec une personne de Nantes et une personne d'Albi, de deux régions différentes, qu'hélas, on voit de moins en moins de troupeaux dans les pâturages, de vaches, par exemple, et ainsi de suite, de plus en plus de troupeaux enfermés et d'élevages enfermés. Alors c'est un petit peu aberrant car là aujourd'hui 350 personnes pour de l'éco-pâturage et en revanche dans le milieu agricole aujourd'hui de moins en moins de pâturage. Donc j'étais favorable à ce projet, je pense que c'est un bon lien entre le milieu rural et le milieu urbain, donc j'ai plutôt plaidé vis-à-vis de mes collègues du conseil municipal. Je trouve que cet élevage se porte bien, d'un point de vue pédagogique les familles sont très intéressées, c'est incroyable de voir au moment de l'agnelage et toute l'année les familles avec leurs enfants découvrir ce lieu. Je me permets d'ajouter par rapport à ce qu'a présenté Philippe en éco-pâturage au niveau ville, ça se limite à ça. Par contre, nous avions une parcelle en vallée de Vilaine aussi qui était en fauche. Nous avons une personne qui nous a sollicité pour mettre un cheval aujourd'hui et qui va avoir un poulain sans doute les jours prochains. Donc là, nous avons 3 chevaux et un âne sur cette parcelle. Mais là, c'est une privée qui gère cette parcelle. Voilà. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions. En termes d'entretien du troupeau, alors Philippe, tu peux peut-être préciser, la tonte, la taille des onglons, c'est des points techniques, mais peut-être que ça intéresse les personnes ici.
Alors, pour la tonte, on a un prestataire qui vient une fois l'année nous tondre le troupeau. Après, pour la taille des ongles, c'est les agents de l'équipe qui s'en occupent lors de leur passage régulier sur site.
Vermifuge, etc.
Vermifuge et puis, le cas échéant, passage d'un vétérinaire quand on en a besoin, mais c'est assez rare.
Alors, vous avez parlé de pédagogie, vous avez dit que les personnes viennent spontanément. Est-ce que vous avez mis en place des actions avec les collèges ou d'autres pour justement favoriser le contact entre les urbains et les ruraux, ou en tout cas le monde rural ?
Non, c'est quelque chose qu'on n'a pas fait, qui reste à faire, donc on a encore des marges de progrès. D'autant qu'on est, comme on est au proche du centre-ville, il y a effectivement des établissements scolaires qui sont tout proches, donc qui pourraient bénéficier assez facilement d'actions dans ce sens-là, tout à fait.
Il faut du temps, tout simplement.
Il faut aussi du temps. Alors sur des petites structures comme les nôtres, on n'a effectivement pas d'animateur dédié à ce genre de choses, donc il faut réussir à dégager un peu de temps en temps, c'est pas facile.
Bon, ben parfait. Est-ce que vous avez des questions peut-être pour cette... Ah oui, donc oui, effectivement. Les mains se lèvent. Bon, ben on va en prendre 2 ou 3 pour cette première partie, en sachant qu'on a encore 2 interventions derrière, donc vous inquiétez pas. Si vous voulez approcher peut-être pour poser votre question pour qu'on entende bien. Non, vraiment, vous avez pas envie. Alors allez-y, je vais répéter. Numéro d'éleveur, est-ce que vous avez suivi vétérinaire, la question ?
Donc, numéro d'élevage, oui, bien évidemment. Suivi vétérinaire, prophylaxie obligatoire, etc. Tout ça, c'est mis en place. On a eu droit à un petit contrôle des services de l'État il y a 1 an et demi. Donc, tous nos documents ont été épluchés, registre d'élevage, carnet d'agnelage, etc., etc. Donc, oui, tout est mis en place. D'autant que la question a été évoquée ce matin sur qu'est-ce qu'on fait des animaux. Je vous ai dit 23 agneaux, on va peut-être finir à 26, 28, j'en sais rien. Sur les agneaux de l'année, une partie est conservée pour renouveler le troupeau, donc un certain nombre de brebis sont réformés chaque année. On a un certain nombre d'agneaux qui vont à l'extérieur pour faire la même chose, pour faire de l'éco-pâturage. Plusieurs communes voisines nous ont acheté des animaux, donc la chose est sème. Et puis clairement, il y a des animaux qui vont à l'abattoir et qui finissent à la cantine municipale. Donc là, on est sur un circuit court et de proximité, puisqu'on a la chance d'avoir un abattoir à Vitré. Donc on les emmène à l'abattoir, et de l'abattoir, ils passent à la restauration scolaire, ils ne quittent pas le territoire vitréen.
Ça répond à une des questions ce matin, d'ailleurs.
Voilà. Alors après, c'est vrai que sur cette question-là, on ne communique pas trop le fait que les agneaux que les enfants sont venus voir dans la ville de Vilaine, ils terminent dans l'assiette à la cantine. Bon. Alors après, soyons clairs, ça nous permet d'assurer un service. Hein. C'est-à-dire que nous ne sommes pas producteurs de la viande pour le service de restauration municipale. Mais voilà, c'est le débouché. Tout à fait. Et ce qui fait que pour cela, on s'était aussi rapproché des services vétérinaires avec nos collègues de la restauration municipale, de manière à ce que les choses soient carrées, parce qu'eux, ils ont de la traçabilité, etc. etc. Donc, et c'est la même chose d'ailleurs pour le miel qui va aussi en restauration municipale.
Alors, une autre question.
Bien fort.
Alors, je répète, hein, pour tout le monde, le coût par agent, donc de ce travail en éco-pâturage, est-ce que c'est moins cher que la technique qu'on avait au préalable?
Globalement, bon an, mal an, ça, le temps cumulé sur la gestion du troupeau des animaux, globalement, c'est l'équivalent d'à peu près un tiers temps. En termes de coût, je pense que l'un dans l'autre, ça nous revient au même prix que si on avait une autre technique de gestion de l'espace. En termes d'impact écologique, en termes d'image, en termes difficilement quantifiables et chiffrables, il y a des choses beaucoup plus intéressantes quand même sur cette technique-là. Donc si c'était à refaire, je pense qu'on le referait, oui. Non, moi j'ai jamais dit que ça coûtait moins cher.
Alors, une réponse, ben on va enchaîner directement. Vous voulez apporter une réponse avant votre intervention? Alors voilà, on va tout de suite inviter donc Denis Aubry, responsable des espaces verts du conseil départemental du Maine-et-Loire. Donc là, vous avez différents sites que vous entretenez donc comme ça, des châteaux, on va le voir, mais aussi des collèges. Ça va être une nouveauté par rapport à ce qu'on vient d'entendre. Un parc du végétal, je crois. Et puis vous avez aussi du recul sur l'expérience. Et vous le dites, tout n'a pas été rose dès le départ. Vous avez eu quelques échecs et donc vous avez aussi changé et fait évoluer vos méthodes. Donc un petit peut-être complément de réponse.
Merci. Juste, oui, ça dépend de la prestation mécanique, si c'est juste une tonte ou si on est sur un espace naturel et qu'il faut extraire la matière. Donc venir avec du matériel spécialisé pour extraire la matière, genre Amazon, ce sont des coûts beaucoup plus importants. Ça dépend ce qu'on compare. Si on compare ce genre de prestation au pâturage, ça coûte plus cher. Ça dépend du nombre de passages aussi, de tontes. Enfin, voilà. C'est difficile de comparer le mécanique et le pâturage. Souvent, on amène des éléments, mais ça dépend complètement du site et de la façon dont il est exploité mécaniquement. Voilà, c'était juste pour ajouter. Merci. Donc, merci. Donc, Denis Aubry, je suis responsable des parcs et jardins département du Maine-et-Loire, conseil départemental. Donc, nous sommes un petit service de 7 personnes pour un grand département. Donc, je vais présenter différents sites. Alors, nous, nos sites, ça va du parc de la préfecture ou de l'hôtel du département, hein, parc de prestige. On ne fait pas de pâturage, on a un rucher. On fait de la décoration florale. Donc, je vous parle de tout ça pour vous dire la diversité de métiers au sein de notre petite équipe, malgré qu'on assure aussi du pâturage. Ça va jusqu'aux espaces parcs et espaces naturels, comme le château du Plessis-Massé, qui est tout près d'ici, jusqu'à une forêt départementale qui est à Sèche sur le Loir, la forêt de Boudray. Donc c'est 300 hectares de forêt et 200 hectares de terres agricoles. Et un autre site, mais qu'on gère plus vraiment avec notre personnel, qui est pas loin d'ici, au Lion d'Angers. Alors, c'est le cheval, c'est l'île Briand, le milieu du cheval. Donc il y a des gens du site IFCE qui sont présents, que j'ai aperçus ce matin. Donc on va commencer à parler du château du Plessis-Massé et de son histoire. Donc moi, quand je suis arrivé au département il y a 12 ans, voilà l'image à gauche qu'on retrouve. L'agent n'avait pas d'autre moyen que de désherber chimiquement. Donc déjà, grosse contrainte au niveau des douves. En plus, alors tout à l'heure, on parlait d'un château et d'accident. Nous, il y a eu un accident. Un agent s'est blessé en voulant entretenir les douves du château, en plus. Et puis, le département avait fait le choix d'embaucher, enfin de faire travailler des entreprises d'insertion, sympa pour eux, pour faire le travail difficile. Donc moi, dès que je suis arrivé, on a commencé à clôturer et mettre... au début, on a mis 4 chèvres. Alors, il y a 12 ans, les élus m'ont regardé avec des yeux. Ils n'avaient jamais vu ça. Enfin, je ne comprends pas, parce que c'était quand même un site historique où, à mon avis, le pâturage a été largement utilisé. Et en plus, on est sur un site, donc pour ce site-là, il y a 4 hectares de parc et 40 hectares de terres agricoles. Donc on met à disposition les terres agricoles pour du pâturage bovin. Donc, merci. Donc voilà, du jour au lendemain, on a un petit peu changé les pratiques. Je préfère voir une photo avec un peu plus de verre auprès du donjon. En plus, une autre contrainte, c'était un monument historique et l'architecte des bâtiments de France souhaite absolument qu'il y ait un maximum de pierres et pas trop de végétation qui s'installe. On a beaucoup de lierre qui commence à courir un petit peu partout. Et les chefs sont capables de monter très haut et malgré la verticalité du contrefort. Et puis depuis l'année dernière, donc j'ai mis sur la diapo, on a adopté des oies de Toulouse donc qui finissent le travail en quelque sorte. Alors, je vais revenir un petit peu en arrière, parce que ça ne s'est pas fait quand même tout seul et du jour au lendemain. En fait, on a commencé certaines pratiques de pâturage et en même temps, j'ai rencontré quelqu'un là qui est dans la salle, un technicien de la LPO, qui est venu, que j'ai rencontré lors d'une sortie ornithologique dans ma commune, et il est venu visiter le site où j'avais envie d'aller plus loin dans la démarche écologique. Et on a donc classer ce site-là refuge excellence LPO. Donc cette personne a fait un diagnostic assez poussé qui nous a amené encore plus à mener une réflexion encore plus loin et notamment sur les terres agricoles. On va passer à la diapo. Voilà. Donc sur les terres agricoles, on a des espaces boisés sur une partie, mais aussi beaucoup de mares qui étaient très esquintées par l'abreuvement des bovins, comme on peut voir. Donc dans les prescriptions LPO, il fallait absolument protéger ces mares pour amener une certaine biodiversité au niveau des mares, et là, notamment la reproduction de certains invertébrés. Donc on va passer à la diapo. Voilà. Donc on a mis des clôtures, on a fait poser des clôtures, on a mis des pompes de prairie pour que les bovins viennent s'abreuver. Alors au début, il y avait une certaine réticence des agriculteurs, mais les vaches sont très vite adaptées. Après, s'est posée la question de l'entretien de l'intérieur des mares. Parce que, ayant peu de personnel, on n'avait pas non plus les moyens de débroussailler toute l'année comme il fallait et réouvrir les milieux. Merci. Donc on a travaillé avec pour retraiter les arbres en tétard sur certaines zones dans les mares. On a travaillé avec l'école du Fresne sur des chantiers écoles et on a amené un troupeau de chèvres sur les mares. Alors concernant les animaux, je vais y revenir un petit peu. Donc c'est là qu'on a un petit peu essuyé les plâtres au début. On a commencé avec 4 chèvres. Donc alors moi, au début, j'ai pas cherché spécialement à protéger une race ou quoi que ce soit. On a été chercher au plus près. Donc l'agent qui entretenait le site connaissait un berger pas loin. On a pris 4 chèvres de bergerie. Le problème, c'est qu'elles n'étaient pas du tout habituées à travailler dans des douves et dans les conditions qu'on les a mis. En plus, on a vite eu des problèmes de mammites. Donc le veto nous demandait de traire les biquettes tous les jours. Donc les agents, c'était impossible. Voilà. Donc ça, c'était un petit peu folklorique au début. Et puis petit à petit, on a en fait... On a récupéré des chèvres que des gens ne voulaient plus, mais les chèvres n'étaient pas tout le temps adaptées au site. On a eu des problèmes de chèvres fugueuses. Donc quand il faut envoyer les agents récupérer les chèvres aussi, c'est pas toujours rigolo. Et puis petit à petit, les chèvres, on en a eu besoin quand même parce que je ne pouvais pas mettre des moutons sur des zones très broussailleuses. Donc on en a toujours, mais on a diminué le troupeau quand même. Et on essaye, tant qu'à faire, de prendre des chèvres naines. Alors, gestion des naissances. Donc pour l'instant, je vais rester sur les chèvres. On va parler des moutons après. Donc en général, ça se passe correctement. L'avantage qu'on a, c'est que sur chaque site, il y a toujours un gardien. Oui, je ne l'ai pas dit au début. Sur tous les sites départements, il y a un gardien. Donc le week-end, ils sont libres quand même de partir, mais on sait qu'il y a une présence humaine, surveillance des animaux. Donc en général, les mises bas se passent bien, mais s'il y avait un souci, on peut aussi. Enfin, il y a l'agent qui est là et on peut appeler le vétérinaire en cas de gros problème. Alors, je vais parler aussi d'autres choses qui nous est arrivée sur justement la protection des mares. Donc là, on est sur un autre site. Je vais continuer à parler du château du Plessis-Massé. On a une mare très éloignée en fait du château sur lequel on avait mis la photo que vous avez vue avant, des chèvres. Et en fait, on a eu une attaque de chiens errants. Et on a eu 7 chèvres du jour au lendemain sur le carreau. Donc on a fait venir le veto qui a fait un rapport. Et en fait, il s'est avéré que nous, on n'a jamais trouvé les chiens, mais c'était des tout petits chiens, c'était pas des gros chiens. Alors les chèvres ont été en fait attaquées et mortes de stress. Il n'y en a qu'une en fait qui était éventrée. Donc ça, c'est un gros problème, nous, qu'on a sur des sites isolés. Là, on n'est pas en milieu urbain, où il y a toujours de la présence humaine, bien que j'ai pas entendu témoignage d'attaque de chiens en milieu urbain. Mais sur des zones éloignées, quand il y a des fermes avec des chiens qui sont des fois en liberté, on a ces problèmes-là. Alors là, on va aller sur le site de la forêt de Boudray, donc c'est 300 hectares. Là aussi, on a rouvert des millions, pareil, espace naturel sensible. Là aussi, on a travaillé avec la LPO. On a rouvert certains milieux. Alors là, c'est à une échelle beaucoup plus grande. Donc, quand c'est comme ça, on met des clôtures mobiles électriques. Et la zone que vous voyez à gauche, qui a été rouverte par l'ONF, a été ensuite pâturée, parce que la nature a vite regagné ses droits. Et on a fait pâturer ponctuellement avec des chèvres aussi. Donc c'est un site qui est en pleine forêt et on n'a pas eu de problème ni de chiens errants ni de problème de faune qui aurait esquinté les barrières ou autre. En même temps, sur ce site-là, on a aussi un hippodrome. Alors ça n'a rien à voir avec l'hippodrome d'Angers. C'est un hippodrome qui est utilisé 4 fois l'année dans des périodes hivernales parce qu'on est sur un sol très sablonneux donc qui peut supporter les chevaux, le terrain reste sec l'hiver. Et comme on avait besoin d'une zone de repli pour mettre nos animaux, pour éviter le surpâturage sur certaines zones, j'avais proposé à la société de course de pouvoir mettre des animaux sur l'hippodrome. Donc ils ont accepté, on a mis chèvres et moutons. Le problème, c'est que les chèvres ont commencé à faire des dégâts sur les obstacles. Donc on nous a demandé de retirer les animaux. Mais je pense qu'avec des moutons, ça aurait pu se faire sans problème, parce que c'est assez, assez grand. Voilà, alors on va en venir à la deuxième partie. Donc depuis 2 ans maintenant, notre direction a fusionné avec la direction des collèges. On s'occupait absolument pas des collèges. Et en même temps, dans les collèges, il y a eu une grosse réorganisation. Le personnel, en fait, a réintégré en partie le département sur des équipes mobiles pour entretenir les bâtiments. Alors que c'était une personne par collège qui gérait un peu le bâtiment et beaucoup les espaces verts. Et dans la réorganisation, ils ont mis un agent pour gérer 2 collèges, à la fois un petit peu en bâtiment et à la fois aux espaces verts. En plus, ils avaient aussi des problèmes. Alors, ce ne sont pas des professionnels pour gérer les espaces verts, puisque je les ai rencontrés. Ils ont, pour la plupart, surtout des formations bâtiment. Il manquait de matériel. Et quand j'ai fait les diagnostics des 50 collèges au niveau espaces verts, je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de surfaces, et pour certains, de grandes surfaces qui pouvaient être pâturées. J'ai pas non plus remplacé les tondeuses par les moutons. J'ai essayé d'intégrer ça dans des collèges où les principaux, les gestionnaires et certains profs étaient porteurs aussi du projet pour faire de la pédagogie. Donc on a commencé sur 2 collèges au début. Donc là, on est en milieu vraiment urbain, en haut à gauche. C'est juste à côté, c'est à Montreuil-Juigné, avec peu de contraintes puisque on a eu peu de clôtures à mettre. Il y avait déjà des clôtures. La cabane a été déjà faite. C'était une cabane à outils, je pense. Donc on a intégré des moutons d'Ouessant. Ça s'est bien passé jusqu'à la période des vacances de Pâques, où les 3 brebis étaient pleines. Et quand les enfants sont revenus, enfin très bien, il y a eu 3 petits. Les petits ont commencé à faire les andouilles devant les fenêtres des collégiens. Et là, catastrophe, plus de concentration en cours. On nous a demandé de retirer les moutons, ça n'allait plus du tout. Je suis OK. Donc le projet n'est pas tombé à l'eau, on a remis une clôture, on l'a laissé un petit peu se calmer et calmer le jeu, parce qu'il voulait vraiment garder les moutons quand même, et depuis ça se passe à peu près bien. Donc il y a Sylvain qui est là qui peut témoigner, c'est lui qui gère les moutons. Mais au début on a eu peur. Ensuite, deuxième collège, donc c'est à Montreuil-Bellet. Alors là, c'est des surfaces beaucoup plus grandes, donc on a mis un troupeau de 10 moutons. Un projet alors très demandé par surtout le principal qui habite sur place et le gestionnaire qui, je crois, avait géré aussi à une époque des moutons. L'avantage dans ce collège-là, c'est que le week-end, ils prennent les moutons, enfin, ils prennent le relais vraiment et ils ouvrent carrément tout le collège aux moutons. C'est un collège, ce collège-là, quand je l'ai visité, au niveau entretien espace vert, il était à l'abandon. L'agent était malade, ils n'avaient plus de matériel, plus personne n'entretenait le collège. Donc c'est les moutons qui ont pris un peu le relais. Je vais parler après la diapo d'après des races de moutons. Voilà. Donc on utilise 2 types de moutons. Alors Pour éviter ce qu'on a fait au début, de mélanger un petit peu toutes les races, enfin ce qu'on a fait au niveau des chèvres, je ne voulais pas faire la même chose au niveau des moutons. Donc on a choisi le mouton d'Ouessant. Donc je ne vais pas en parler tellement plus parce que je pense qu'il y a des éleveurs qui ont dû en parler dans d'autres ateliers. Pour nous, il est facile à manipuler. C'est un très bon brouteur. Il est docile. Avec les gamins, ça se passe très bien. On a eu une expérience il n'y a pas longtemps. Là, il y a une émission qui va passer, la Vue sur Loire, qui a été tournée dans le collège Félix Landreau, donc qui est à Angers. Où là il y a un vrai projet pédagogique avec une classe de SECPA, donc ce sont quand même des collégiens en difficulté. On met à la fois des ruches et moutons, c'est eux qui ont construit les ruches d'ailleurs. Donc là on va amener les essaims bientôt, les moutons ils sont déjà. Alors tout à l'heure on parlait de la viande, il n'est pas question qu'ils finissent à la cantine, ils ont donné un nom à chaque mouton. Donc Dédé il va pas finir dans l'assiette lui. Non, mais sérieux, enfin, pour nous, c'est une problématique. Hein. Les moutons, jusqu'à aujourd'hui, on arrive à gérer. Je vais en parler un petit peu après. Mais pour l'instant, il n'est pas question qu'ils finissent à la cantine scolaire des collèges. Et donc, le mouton du Cameroun, donc ça, c'est un choix par rapport... Alors, je n'ai pas parlé de la tonte. Je ne sais pas si vous connaissez ce mouton-là. Ils n'en ont pas présenté ici, mais c'est un mouton qui est de plus en plus utilisé. Beaucoup chez des particuliers, d'ailleurs. Parce que nous, on les achète sur le bon coin chez les particuliers. Alors, on essaye d'avoir des races, qu'il n'y ait pas trop de croisements de moutons. Donc, on fait aussi attention. Nous, on a un bélier reproducteur. Au bout de 2 ans, en général, soit on trouve quelqu'un pour le récupérer, ou on le castre. Et moi, je suis ouvert. Hein, si localement, il y a des gens qui ont des moutons du Cameroun, on peut aussi faire des échanges de béliers. Ça serait le plus intelligent, d'ailleurs. Voilà. Donc alors l'avantage du Cameroun, c'est qu'on n'a pas à le tondre. Hein, il a une toison qui perd naturellement. Parce que la tonte des moutons d'Ouessant, pour nous, c'est assez compliqué. Alors on a eu jusqu'à maintenant quelqu'un qui nous faisait la tonte, mais là actuellement, il faut que je trouve quelqu'un. Pareil, je suis un appel. Si localement, il y a des éleveurs qui font de la tonte, alors je sais que c'est compliqué pour le mouton d'Ouessant. Il faut plus de temps pour tondre un Ouessant. Voilà. Alors ensuite, oui, le transport. On n'a pas tellement parlé jusque-là. Bon, nous, c'est tout simple. Hein. Les agents ont modifié une remorque pour pouvoir transporter mieux les animaux. Au début, on les mettait dans le camion, mais bon, après, le problème, c'est d'amener le camion au plus près de la parcelle. C'est pas toujours simple, alors clairement, la remorque, elle peut être roulée. On n'a pas de chien, nous, c'est clair. C'est les agents qui, des fois, courent après les bêtes. Enfin, faut faire attention. Quand on amène des moutons en milieu urbain et surtout dans un collège, il n'est pas question de perdre une bête au moment où on amène les animaux. Oui, alors, oui, j'ai mis ça, cette photo-là. Bon, celle-là, je l'ai prise sur Internet. Celle du haut, c'est Sylvain qui a fait la photo. Là. C'est rare de pouvoir voir un chien qui dit bonjour de près comme ça aux moutons. Mais bon, c'était pour imager un petit peu, nous, les problèmes qu'on a eu avec les chiens errants. J'insiste dessus, parce que si vous mettez en place, que ce soit milieu urbain ou périurbain ou un peu plus loin, faire attention quand même aux chiens, enfin, aux chiens errants qui peuvent se promener dans le coin. Nous, c'est vraiment une difficulté qu'on a eue. Enfin, on a perdu, en fait, c'est arrivé 3 fois. Mais le pire, c'était 7 chèvres d'un coup, quoi. Voilà, j'ai fait un petit peu le tour, s'il y a des questions...
Voilà donc pour une autre présentation, on l'a vu avec les collèges et justement sur le lien social et sur l'animal en tant que médiateur auprès des enfants. Vous parliez tout à l'heure des personnes, enfin des jeunes qui s'en secquent pas. Ça, vous l'avez constaté, vous ?
Oui, alors je vais réinsister, c'est vrai que j'ai oublié d'en parler. Le jour où on a fait le tournage de l'émission, ça a traîné le temps que les caméras se mettent en route et tout ça. Donc moi, je me suis retrouvé en présence des jeunes de la classe de SECPA, très énervés. C'est vrai, comportement difficile entre eux, langage difficile. À partir du moment où ils ont été en contact avec les moutons, j'ai vu vraiment des jeunes changer d'attitude entre eux. Mais c'était impressionnant. D'une minute à l'autre, ils ont complètement changé de comportement. Il y avait un jeune qui voulait absolument pas s'intégrer au groupe, qui ne voulait pas passer à la télé. Il a tout oublié, c'était le premier à aller au contact des bêtes. Autre chose, dans un autre collège, un principal m'a rapporté que quand il y a des problèmes avec des jeunes, ils envoient voir les moutons pour les calmer. Et c'est vrai que l'animal, voilà, ça a un côté calmant aussi.
et peut-être aussi l'éco-pâturage dans une logique plus large de zéro phyto. Est-ce que ça s'inscrit bien dans ce domaine-là?
Ah bah, bien entendu, moi c'est par là que j'ai commencé au Plessis-Massé, ça a été la première démarche. Bon, maintenant dans les collèges on était déjà en zéro phyto, donc il n'y a pas de souci, c'est complémentaire. Et de toute manière, sur l'ensemble de nos sites, on est en espace naturel sensible, on n'utilise plus du tout de produits phytosanitaires.
Et vous m'aviez dit, bon, c'est vrai qu'au départ, quand j'ai lancé ça, les élus m'ont regardé avec des yeux un peu écarquillés. Ouais. Maintenant, vous avez presque trop de demandes. Les routes, par exemple, voudraient bien mettre...
Les routes vont commencer. Alors là, on va avoir de plus en plus de surface. On commence à y réfléchir. Parce que là, nous, on arrive au bout. On a 40... En fait, je vous ai pas dit, on a 18 moutons d'Ouessant, on a 10 moutons du Cameroun et on a quinzaine de chèvres. Là, on a des projets qui arrivent encore parce que maintenant, on a commencé dans 2, 3, 4 collèges. On est rendu à 6 collèges. Je commence à avoir, là, il y a à peu près 4 autres collèges qui me demandent sur le département si on peut faire de l'éco-pâturage. J'ai regardé à peu près sur 15 collèges. Donc aujourd'hui, on n'est plus capable d'assurer le suivi au niveau de l'ensemble des collèges. Il faudrait qu'on multiplie par deux notre troupeau. Enfin là, on va arriver à 50 bêtes. C'est plus possible en régie. On n'est que 7 agents. Alors, on va faire sans doute appel à un prestataire. Mais comme disait mon collègue tout à l'heure, il y a 10 ans, il n'y avait personne sur le marché. Nous, les éleveurs, ils nous regardaient un peu bizarrement. Aujourd'hui, oui, on a besoin d'eux, ça c'est clair. Alors c'est vrai que localement, il y a beaucoup d'entreprises qui commencent à développer le pâturage avec des prestations. Donc on va inclure dans nos marchés... Voilà, les prestations avec éleveurs de pâturage.
Alors, on a pris un peu de retard. Est-ce qu'il y a une ou deux questions, peut-être? On va pas pouvoir... Ou on passe directement au témoignage suivant, qui est encore un autre témoignage. Là, c'est une entreprise qui s'est lancée dans la démarche. Merci. Ah, il y avait une question. Allez, on va en prendre une quand même, juste, si vous voulez approcher. Bon, je vais répéter. Allez, parlez fort.
Moi, j'ai une question. Pourquoi, au début, vous avez choisi des
Pourquoi la chèvre naine?
Alors, nous, on s'est rendu compte que c'était plus compliqué à gérer les grands animaux, enfin les grosses chèvres, qui arrivaient à passer plus facilement certaines clôtures. Celles avec qui on a eu le plus de difficultés, c'était les chèvres les plus grandes, et en plus, à manipuler aussi, et à courir après les chèvres. On a eu un accident, une luxation d'épaule une fois, avec une chèvre assez balèze. et puis, question de transport aussi. Mais au niveau, nous, notre difficulté, elle est beaucoup logistique, quoi. On doit tout le temps déplacer les animaux, on va sur pas mal de sites. Donc il faut des animaux assez petits, c'est pour ça qu'on a choisi le mouton d'Ouessant aussi. Et pour les chèvres, c'est la même chose. En fait, les chèvres, on les déplace, c'est surtout sur le site, hein, d'une zone à l'autre, pour éviter le surpâturage.
Vous imaginiez devenir un éleveur un jour?
Non, mais je me considère pas du tout comme éleveur.
Un peu quand même.
Ouais, un petit peu, mais c'est pour ça qu'aujourd'hui... Nous, c'est un peu de l'amateurisme, mais il y a beaucoup de gens amateurs qui gèrent leur jardin avec des animaux. Moi, les agents, quand ils vont chercher les animaux qu'on achète sur le Bon Coin, ils rencontrent des gens passionnés et qui connaissent aussi le métier d'éleveur.
Allez, on passe au témoignage suivant, ça n'empêchera pas des questions à la fin. On passe donc avec le témoignage de Monsieur Hervé Marchand, donc, qui travaille chez ArcelorMittal. Et là, c'est sur un site industriel, donc près de Nantes. En bordure de Loire, je crois, où vous avez mis en place ce projet. Et vous, c'était aussi pour entretenir un espace donc, comme les autres. Mais il y avait aussi un regard peut-être des citoyens sur le site qui n'était pas forcément favorable.
Oui, je vais répondre à ces questions au travers de ma présentation. Je suis responsable de QSE d'un site industriel qui fait à peu près 500 personnes. Je vous en prie. C'est un site qui est situé donc à 10 km de Nantes. Entre Nantes et Saint-Nazaire, et qui, comme vous voyez sur la photo, longe la Loire, côté nord. C'est un site, c'est un site ancien, hein, il a presque 2 siècles. Il a été exclusivement dédié à la production de fer depuis 1823. Et à l'heure actuelle, donc, on fait du fer pour les boîtes de conserve. Donc elles sont faites, on les produit nous sous forme de bobines, de 10 tonnes à peu près, et c'est nos clients qui vont faire les boîtes de conserve, qui eux-mêmes vont transmettre ces boîtes de conserve à des sociétés qui vont les remplir. Ce qui est important de voir aussi, c'est que ce site industriel est classé Seveso. Alors Seveso bas, certes, mais on a du stockage de produits chimiques plutôt dangereux. Donc tout associé, voilà, un site industriel polluant, c'est-à-dire soit autant par les émissions atmosphériques que par les émissions dans l'eau. Donc effectivement, on a eu, et ça je vais vous le montrer après, on a eu aussi un souci d'image. Alors ArcelorMittal, c'est un site, ce que je vous présente, c'est un site parmi d'autres. Hein. Là, on est 500 personnes, ArcelorMittal dans le monde, c'est 300 000. Et c'est surtout, ArcelorMittal, une image plutôt négative en ce qui concerne l'environnement, et notamment les émissions de CO2. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est ce site-là, de par son ancienneté, hein, 1823, deux siècles, donc il a toujours été à peu près de 60 hectares. Il y a deux siècles, ou même il y a un siècle, il était entièrement construit sur ces 63 hectares. À l'heure actuelle, on n'a plus qu'un tiers de bâti. Voilà. Et tout le reste, finalement, est en friche, ou était en friche il y a quelques années. Voilà, bon, certifié ISO 14001, certifié d'autres normes aussi, depuis un certain nombre d'années. Oui. Alors, l'idée de l'éco-pâturage, elle n'est pas venue par une problématique environnementale. Elle est venue par une problématique de sécurité. On a, comme je vous ai dit tout à l'heure, on est sur un site Seveso et on a des stockages de produits chimiques qui sont dangereux et qui sont dans ce qu'on appelle des zones atmosphère explosives. Et du coup, on ne peut pas faire du fauchage thermique. On est obligé d'utiliser des hommes pour couper à la main les ronces, les arbres, l'herbe qui pousse autour de ces stockages de produits chimiques. Donc on avait un problème de sécurité. Alors tout comme le témoignage de tout à l'heure, on faisait appel hein, jusqu'à présent une association qui emploie des travailleurs handicapés. Donc c'était pas terrible pour eux aussi, cette situation-là. Donc du coup, on a cherché une solution pour faire du fauchage de manière sécurisée. Et bon, après, c'est plutôt par échange informel qu'on a été sollicité par une société d'éco-pâturage. Donc c'était tout nouveau pour nous, c'était assez nouveau aussi dans la région, qui nous a dit, ben voilà, on peut vous mettre à disposition des animaux pour faire ce travail-là. Et puis donc de fil en aiguille, on est arrivé à rencontrer plusieurs prestataires privés. Et finalement, cette zone à texte qui n'était pas très très grande, eh ben, on ne l'a pas privilégié, on est parti sur un autre domaine qui nous pose aussi un problème. C'est un petit bois qui est à l'entrée de l'usine. Donc vous voyez ici, là, sur la photo en zoom, qui fait 4 hectares et qui est une friche industrielle depuis presque 30 ans, puisqu'auparavant c'était une zone pavillonnaire dédiée donc aux travailleurs de l'usine, hein, et qui avait été démolie dans les années 80-85. Et qui avait été laissé à l'abandon, hein, complètement. Donc les arbres ont poussé dessus, l'herbe a poussé dessus, le lierre a poussé dessus. Et puis, surtout, cette zone-là, certainement extrêmement polluée. Et j'avais, moi, interdit à quiconque d'y aller, parce qu'on était en présence de trous, de fossés, de produits chimiques, enfin tout ce que vous pouvez imaginer sur une zone laissée en abandon depuis 30 ans et pas du tout traitée. Allez-y. Alors cette idée d'éco-pâturage, elle a effectivement fait son chemin, et puis on s'est décidé à y aller en 2015. Et en 2015, donc, accompagné d'un prestataire avec qui on travaille toujours. Alors très clairement, c'est pas mon métier. Je suis pas du tout berger. L'environnement, je connais un peu mieux, mais toute la partie éco-pâturage, je découvrais. Donc ce prestataire nous a accompagnés, nous a proposé les animaux. Donc moi voilà, j'ai suivi presque les yeux fermés, hein. Après c'est aussi un feeling qu'on peut avoir avec la personne qui nous accompagne. Et donc proposition de mettre une vingtaine de bêtes, hein. Donc 10 chèvres de race alpine, et puis moi une race que je ne connaissais pas du tout, c'est les chèvres de Rove. Donc c'est plutôt si j'ai bien compris, des chèvres du sud de la France. C'est un côté esthétique plutôt sympa. Après, en termes d'affectuosité, je trouve que les chèvres alpines sont un peu plus affectueuses que les chèvres de Rove. Mais bon, ça, je ne sais pas si c'est lié à l'espèce. Et puis, allez, pour donner un petit peu un côté un peu plus sympa aussi aux animaux, Il nous a été proposé une vache pour cette parcelle, hein, donc une pinoire bretonne, qui s'appelle Yvette. Alors, c'était son nom d'origine qu'on a conservé. Mais vous verrez tout à l'heure, je vous donnerai une anecdote à propos de ce nom. Et puis l'animal surprise, qui est un mouton d'Ouessant. Alors pourquoi surprise? Parce qu'en gros, il a exactement le comportement des chèvres. Voilà, donc c'est un mouton chèvre. Et il fait comme les chèvres, comme peut faire la vache aussi. La vache, on a vraiment l'impression que c'est une chèvre, mais en grand format. Bon, les objectifs, on avait effectivement, je vous en ai parlé, c'était un objectif de sécurité, donc faire du défrichage tout en sécurité dans cette zone-là. Environnementalement parlant, donc c'était réduire la production de déchets verts, hein, puisqu'on était sur du fauchage par tracteur, donc il fallait aussi pour nous évacuer ces déchets verts. Fertilisation naturelle, bon, on n'était pas forcément sur ce trip-là, mais disons que on a aussi été accompagné par la LPO, qui nous a fait un diagnostic en 2015 et qui nous a effectivement validé l'idée de mettre de l'écopâturage pour favoriser le développement d'un certain nombre d'espèces locales. Et puis, ce qui était important aussi, c'est l'arrêt du fauchage par un tracteur. Donc moins d'énergie fossile utilisée, moins de combustion, moins de dégagement CO2. L'autre volet, il a été hyper important, et surtout il a été très important pour moi pour convaincre mes patrons, parce que l'éco-pâturage, c'est pas gratuit, c'est pas moins cher que du fauchage thermique, hein, ça c'est clair, c'est pas tellement plus cher non plus. Par contre, socialement, c'est vraiment valable parce que ça nous a permis deux choses. Déjà d'intégrer les 500 personnes de notre entreprise à un projet qui n'est pas industriel, et c'est plutôt une nouveauté. Moi, j'ai été surpris de comportement. Alors tout à l'heure, on parlait de comportement de lycéens ou de collégiens. Monde industriel métallurgique, on n'est pas forcément sur des gens très portés sur la question environnementale. Plutôt brut de pommes. Et voilà, j'ai vu des comportements changer aussi au contact des bêtes. C'est très impressionnant. Socialement aussi, enfin, la relation avec les riverains a été complètement changée également, puisque Arcelor est certainement encore un peu toujours considéré comme une entreprise pas très transparente dans ses informations, polluante. On a toujours cette image-là, on l'a toujours gardée. J'espère qu'avec ces manifestations-là, voilà, ça va permettre de changer petit à petit. Mais socialement, les échanges avec les riverains ont été pareils. Une découverte. On s'aperçoit qu'ils se sont appropriés les bêtes. Donc il y a une vingtaine d'animaux et elles ont tout un nom. On a associé les écoles pour donner les noms justement à chacune des chèvres. La vache avait déjà son nom, le mouton avait déjà son nom. Donc on s'est focalisé sur les chèvres. Donc on a associé les écoles, on a associé les riverains également. Et puis il faut savoir que cette zone-là, donc elle est dans la propriété ArcelorMittal, mais elle touche la ville d'Indre. Et les habitants sont les premiers à dire quand il y a quelque chose d'anormal qui se passe. C'est eux qui nous avertissent qu'il peut se passer un problème. Alors là, il y a eu une tempête il y a quelques semaines. Il y a des arbres qui sont tombés sur les clôtures se sont effondrées, et on a eu une dizaine d'appels dans la minute qui suivait, quoi. Donc on sait qu'on a des gardiens, hein, ce sont les riverains. Et puis de temps en temps, voilà, les salariés aussi font le tour de cet endroit-là. Pas beaucoup de recul, hein, sur ces copâturages, puisqu'il a un peu plus d'un an. Ceci dit, ce qu'on s'était dit, ce que ça allait produire, s'est avéré exact. Je dirais même, est allé au-delà de ce qu'on pensait. Et notamment, donc avec 20 animaux, on pouvait effectivement penser qu'en un an, ça allait être bien mangé tout ça. Et du fait que maintenant on peut aller dans cette zone-là, à peu près de manière sécurisée, on s'aperçoit effectivement que c'est une zone qui était jonchée de déchets. Alors, tous les produits chimiques ont disparu, hein, parce qu'en 30 ans, ça disparaît dans le sol. En revanche, on a toujours les parties ferraille, les parties plastiques, les parties verts qui étaient là. Donc, sachez qu'à l'heure actuelle, on a enlevé à peu près 20 sacs de 200 litres. Alors, j'ai pas fait le poids parce que parce que c'est bon. Mais c'est, voilà, c'est ça. C'est 4000 litres de déchets. Et c'est pas fini. Le gros de la troupe, c'est des bouteilles en verre, des bouteilles d'alcool. Dans un monde, effectivement, il y a 30 ans, il y a eu beaucoup d'alcool. Il y en a toujours un peu, notamment avec les, ça c'est véridique, hein, avec les transporteurs routiers qui jettent leur, donc qui viennent se garer dans cette zone-là et qui jettent encore et toujours des bouteilles dans ces parties-là. Bon voilà, ça a permis de mettre en évidence et surtout de pouvoir dégager les déchets. Il en reste beaucoup, on a encore beaucoup de travail à faire. Le bois, il est aux trois quarts défriché. Donc il y a une alimentation, alors elles sont là les bêtes là pendant toute l'année. Il y a une alimentation qui est de substitut, enfin de complément qui est apporté par le berger, hein, du foin. Ça a plutôt bien servi cet hiver. Et puis donc effectivement, socialement, alors c'est ce que je vous disais, donc ça a vraiment très très bien fonctionné. Et puis ça a permis aussi aux habitants d'Indre et à nous, à la société Arcelor, hein, qui on est très liés avec la ville d'Indre, ça a permis donc de développer cet éco-pâturage, puisque la ville d'Indre justement a mis en place l'année dernière l'éco-pâturage pour sa propre ville, une trentaine d'animaux, si j'ai bonne mémoire. Donc voilà, ça permet de développer, et on a maintenant une société qui est notre voisine, qui est une des deux usines d'incinération principale de Nantes, qui également a mis de l'éco-pâturage, alors des petits moutons dévoissants, certes, mais voilà, ça commence à prendre de l'ampleur. En tout cas, dans cette zone-là de Nantes, hein, enfin de Nantes, de la communauté nantaise. Voilà. Et puis voilà, l'avenir. Alors, effectivement, on a un peu moins de on n'a pas trop de recul, hein, 15 mois, mais on a quand même des projets à venir. Je vous ai dit tout à l'heure que sur 63 hectares, il n'y en avait qu'un tiers qui était bâti. Là, on est sur un éco-pâturage de 4 hectares actuellement, ça veut dire qu'il nous reste encore de la place pour d'autres animaux. On a une zone, notamment, qui est une ancienne zone où on mettait tous nos effluents industriels et qu'on rejetait en Loire sans y faire grand-chose. Ça, c'était il y a une vingtaine d'années. C'est une zone qu'on a revégétalisée depuis 20 ans. Donc qui a permis, alors une zone qui n'est pas du tout fréquentée, il y a interdiction de fréquenter, d'ailleurs, de fréquentation. La LPO nous a fait un diagnostic qui était très intéressant, puisqu'on avait beaucoup d'espèces qui viennent s'y reproduire, qui viennent y rester. Sur une zone de 20 hectares, et on a un gros problème, c'est que c'est certes une zone humide, je vais accélérer, hein. C'est une zone humide et mais par contre qui est envahie depuis 2-3 ans par la Jussie, et on cherche également une solution par éco-pâturage pour nous débarrasser de cette Jussie. D'où effectivement l'idée d'avancer sur cette problématique là. La zone ATEX, la zone atmosphère explosive, on l'a toujours en tête, hein, parce que pour l'instant on continue à faire faucher par une ESAT. Et puis, je vous ai parlé d'image tout à l'heure, donc il y a l'image de l'usine, et puis il y a l'image aussi du groupe ArcelorMittal. Le groupe ArcelorMittal est orienté depuis plusieurs années sur une politique biodiversité. On a été le premier site mondial à mettre de l'éco-pâturage. Il y en a d'autres qui viennent, et du coup, donc, on organise chaque année ce qu'on appelle un comité biodiversité. Et cette année, il se fait à Bassindre. Donc à partir du mois de juin. Et voilà, ça c'est. Et on est porté par la direction sur ce sujet-là. Dès lors qu'on a convaincu la direction, là on savait qu'on pourrait aller assez loin. Voilà, je vous remercie de votre attention.
Alors je suis sûr qu'il y a quelques questions, hein, par rapport à ce qui vient d'être dit. Vous avez parlé de vos voisins, je crois qu'il y a la DCN en face aussi qui s'intéresse à la question de l'éco-pâturage.
Alors la DCN, c'est une usine d'armement, donc il y a un gros site en face d'ArcelorMittal, 1600 personnes. Ils ont fait de l'éco-pâturage, alors c'est de manière ponctuelle, hein. C'est pour surtout un bâtiment remarquable, hein, qu'ils ont voulu dénudé au niveau du lierre. Donc ça s'est fait de façon ponctuelle.
Oui, bonjour. Vous avez parlé de sites pollués. Est-ce que vous avez analysé ? Est-ce que les animaux sont impactés par ces sites ?
Alors, avant, effectivement, de mettre de l'eco-pâturage, on a fait depuis des années des analyses de sol de cette zone-là, donc qui ne révélaient pas de polluants toxiques. Hein, alors, on a fait des recherches sur les métaux lourds, bien sûr, des recherches sur les hydrocarbures, donc pas de concentration plus élevée que les zones environnantes. Non, on est plus sur du déchet solide, ferreux. Et effectivement, donc on a travaillé et surtout on a échangé avec le berger sur cette question-là. Et à partir du moment où ces analyses ne révélaient pas de produits toxiques, en tout cas en surface, il n'y a pas eu de problème particulier.
Pas de souci d'ingestion de corps étrangers.
La problématique du verre, donc, ce sont des bouteilles. Pour la plupart, elles ne sont pas cassées du tout. Hein. Elles sont là depuis des années. Hein. Ça ne se dégrade pas comme ça. En tout cas, les animaux n'en ont pas du tout souffert. Apparemment, hein. Ils savent faire la distinction. Alors ça, c'est sous couvert de mon partenaire. Moi, je ne sais pas tout, je sais pas exactement comment ça fonctionne. Mais ce que je vois, c'est que ces animaux-là savent très bien voir où sont les dangers. Des éventuels trous hein, qui ont pu également se faire sur 30 ans. Et la question du verre, voilà, on n'a pas de risque de coupure particulier. Je vous dis, hein, le verre, il n'est pas cassé. Hein, c'est des bouteilles qui sont jetées comme ça. Non, je n'ai pas trouvé, moi, de morceaux de verre qui puisse être dangereux pour les animaux.
D'autres questions ? Oh, j'y crois pas, ça. Un public comme ça, là, très participatif. Non, c'est vrai, vous avez... C'est que vous avez vraiment envie de prendre un café, peut-être. Ah, si. Si vous voulez approcher, peut-être.
Est-ce que votre action a eu un effet domino sur les salariés ? Je veux dire, par là, c'est qu'il y en a qui se sont dit, tiens, je vais faire ça à la maison.
L'effet levier sur les salariés.
Oui. Alors, j'avais dans ma présentation, mais je l'ai pas là. Enfin, elle était à la fin, là. On avait déjà mis en place un rucher depuis 2012. Donc il y avait déjà eu une action positive sur les salariés et 7 d'entre eux avaient mis des ruches chez eux. En ce qui concerne l'éco-pâturage, alors personne n'a mis de chèvre chez eux, chez lui plutôt. En revanche, il y a quand même pas mal de manifestations de salariés qui veulent absolument approcher des animaux, puisqu'ils sont dans un parc clôturé, électrifié pour une partie. Et donc, ils n'y rentrent que si je les accompagne. Donc, j'en ai plusieurs qui souhaitent, qui le font, hein, qui veulent voir les animaux, qui viennent les caresser, puisque c'est aussi l'intérêt. Donc, on a quelques chèvres qui sont extrêmement affectueuses. On a une vache aussi qui l'est, mais qui est un peu plus rustre. Hein, donc, moi, j'évite. Hein, j'évite qu'on. Je demande à éviter de l'approcher trop près. Donc voilà, je ne sais pas si ça répond à votre question. En tout cas, il n'y a pas eu de velléité de la part des salariés d'avoir des animaux chez eux. C'est vrai qu'on est peut-être sur les chèvres. Peut-être que la question aurait été traitée différemment si ça avait été des moutons. Sachez quand même qu'on a déjà des salariés qui ont des moutons ou qui avaient des moutons avant la mise en place de l'éco-pâturage. Et ils nous ont aidés d'ailleurs hein, dans cette démarche-là. Ils nous ont favorisé. Ils ont favorisé notre réflexion d'y aller. Ouais.
Voilà, donc si vous n'avez pas de questions, on va remercier Philippe Lécuyer pour la ville de Vitré, Denis Aubry pour le conseil départemental du Maine-et-Loire et donc Hervé Marchand pour ArcelorMittal. Merci à vous, on peut les applaudir. Et donc on est bien en horaire, on se retrouve ici dans 10 minutes à peu près pour la dernière conférence. On parlera cette fois-ci de l'animal dans la ville durable et intelligente de demain. Tout un programme, à tout à l'heure et bon café.